Bonsoir à tous. La loi Notre-Dame présentée en Conseil des ministres. Le gouvernement propose d'enjamber certaines réglementations pour reconstruire la cathédrale au plus vite. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit. Des mégots mal éteints ont-ils déclenché l'incendie sur le chantier? Il est à peine élu et il doit déjà affronter une crise avec Moscou. Le nouveau président ukrainien veut renforcer les sanctions contre la Russie. Nous serons sur place. Nous verrons quelle est la nature de cette crise. Au sommaire également, les Américains et leurs alliés afghans qui font plus de victimes civiles en Afghanistan que les islamistes. En France, la loi alimentation pas assez efficace et l'hommage à Dick Rivers, mort à 74 ans, qui n'avait jamais renié ni Elvis ni le rock'n'roll. 18h15, Pierre Veille, une nouvelle étape dans notre tour de l'Union Européenne, 18-20 spécial.
Oui, 18h15, 20h, émission spéciale Europe, troisième numéro. Ce soir, le dossier des migrants, la gestion des frontières extérieures de l'Union Européenne, les forces et faiblesses de l'espace Schengen, explications à Bruxelles avec Angélique Bouin, reportage en France et en Autriche, la crise migratoire vue de l'extérieur, l'Europe perçue comme une forteresse en Afrique, c'est ce que nous dira Jean-Marc Four. Et puis 18h40, plutôt que d'habitude, le téléphone sonne et deux invités pour vous répondre, Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, et Christophe Deltombe, qui est le président de la CIMAD, Association de solidarité avec les migrants. Le standard, il est ouvert, 01 45 24 7000, et bien sûr le site de l'émission franceinter.fr.
Notre-Dame à l'Élysée, présentation ce matin au Conseil des ministres d'un projet de loi pour la restauration de la cathédrale. Le texte permettra de déroger par ordonnance à certaines règles sur les marchés publics ou sur l'urbanisme, et cela pour tenir le délai de 5 ans fixé par Emmanuel Macron. Précision de Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, au micro de Laurence Perron.
L'idée, c'est que toutes les dispositions législatives qui permettent de faciliter la réalisation des travaux de restauration puissent être prises, y compris le cas échéant, je vous le disais, en dérogeant à un certain nombre de règles visant à l'élaboration des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux, d'évaluation environnementale, de protection de l'environnement, de construction, d'urbanisme, de préservation du patrimoine, d'archéologie préventive, de voirie, de transport. On puisse y déroger de manière à avoir une accélération des travaux de construction.
Parmi les réactions à ce dispositif, Stéphane Bern, le monsieur patrimoine, réputé proche d'Emmanuel Macron, qui s'inquiète d'une loi d'exception et qui craint un précédent. Jack Lang, ancien ministre de la Culture, salue la célérité du gouvernement, mais il a des réserves sur l'assouplissement des marchés publics. Et puis le grand architecte français Frédéric Borel, joint par Isabelle Pasquier, il approuve le dispositif, mais avec quelques réserves.
Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont utiles au fait qu'on souhaite construire dans un délai court. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait d'entrave. Le sujet, par exemple, des recours, c'est un sujet qu'il faut éliminer. C'est vrai qu'en France, sur les grands projets et même sur les petits projets, la question du recours est un sport un peu national pour ralentir les projets, pour les contester et parfois de manière tout à fait abusive. Donc sur un projet comme celui-là, qui normalement ne devrait pas subir d'opposition, sauf peut-être d'historiens ou de... Voilà, il peut y avoir évidemment des gens qui sont opposés au projet. Donc je pense que cet article de loi est utile, mais il fait des choses qui, à mon sens, sont un petit peu trop autoritaires. Aujourd'hui, l'État s'est armé, préservé grâce à ces articles de loi, mais quels sont les objectifs qu'il souhaite tenir? Si c'est pour reconstruire à l'identique, il n'y a pas besoin de toutes ces dérogations. Si c'est pour construire un bâtiment avec un nouvel avenir, une nouvelle image, etc., on comprend qu'il ait besoin de toutes ces dérogations possibles.
L'enquête sur les causes de l'incendie de Notre-Dame continue. Le Canard Enchaîné raconte ce matin que des ouvriers qui montaient l'échafaudage ont fumé sur le chantier. Leur entreprise le reconnaît, elle le regrette, mais elle affirme qu'un mégot mal éteint ne peut avoir provoqué le feu. Corinne Audouin.
Oui, les ouvriers de l'entreprise Le Bras Frère qui travaillaient à construire l'échafaudage autour de la flèche ont reconnu devant les enquêteurs qu'il leur arrivait de fumer sur le chantier. Une cigarette peut-elle avoir mis le feu à la charpente? Tout est possible, m'a expliqué un expert en incendie. Si un mégot mal éteint se retrouve en contact avec un matériau combustible, poussière de bois, nid d'hirondelle par exemple. Pour le porte-parole de l'entreprise, cette entorse au règlement est évidemment regrettable, mais le feu étant parti de l'intérieur de la flèche, cela ne peut pas être dû à un mégot. Alors côté judiciaire, on le répète, toutes les hypothèses accidentelles sont explorées, comme celle d'un court-circuit dans un boîtier électrique ou sur un des deux ascenseurs qui desservaient l'échafaudage. Les enquêteurs tentent également de retracer la chronologie exacte des faits et à comprendre pourquoi la première alerte incendie à 18h20 indiquait un endroit erroné, ce qui a fait perdre de précieuses minutes au secours. Les dirigeants de la société de surveillance Elitis, responsable du PC Sécurité, ont à nouveau été entendus par la police ce matin. Une certitude, Frédéric, l'enquête s'annonce longue et complexe.
Corinne Audouin, autre annonce en Conseil des ministres avec la loi Notre-Dame, la dissolution du bastion social, un mouvement d'extrême droite identitaire fondé à Lyon. Le ministre de l'Intérieur avait promis son interdiction après des violences en marge de manifestations gilets jaunes. Éric Drouet annonce qu'il veut faire une pause dans la mobilisation des gilets jaunes. Le camionneur, figure médiatique du mouvement, explique qu'il est à bout de force et que lui et sa famille reçoivent trop de menaces et trop d'insultes. On en reparle dans le journal de 19h.
18h06, le journal Frédéric Mettezo. Frédéric, bientôt un nouveau référendum en Écosse.
Oui, la première ministre écossaise Sturgeon souhaite organiser une consultation sur l'indépendance de l'Écosse avant 2021. En 2019, les Écossais avaient préféré rester dans le Royaume-Uni, mais depuis, le Brexit est passé par là et les Écossais sont majoritairement attachés à l'Union européenne. Vladimir Poutine, toujours solidaire des séparatistes ukrainiens pro-russes. Moscou annonce que les habitants des régions de l'Est obtiendront plus facilement la nationalité russe. La guerre dans l'Est de l'Ukraine a fait plus de 13 000 morts depuis 5 ans. Et à l'instant, Claude Bruyot, le nouveau président ukrainien, vient de réagir.
Le Kremlin voulait sans doute tester le nouveau pouvoir ukrainien. 3 jours seulement après les déclarations de Volodymyr Zelensky, qui à peine élu annonçait son intention de relancer le processus de paix dans le Donbass, Vladimir Poutine a signé aujourd'hui le décret qui doit faciliter l'obtention de la nationalité russe aux habitants des régions concernées, à Lugansk et Donetsk principalement. Alors que les Ukrainiens n'ont pas le droit d'avoir 2 passeports, la partie russe raisonne officiellement en termes humanitaires. Il est vrai que de nombreux Ukrainiens de culture russophone restés dans le Donbass ont souvent une partie de leur famille de l'autre côté de la frontière en Russie. Mais cette disposition spécifique ne fait pas partie des accords de Minsk II qui, bien que au point mort, reste le cadre auquel les parties, l'Ukraine et la Russie notamment, doivent se conformer. La réaction donc de Kiev ne s'est pas fait attendre. Le nouveau président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a appelé au renforcement des sanctions contre la Russie. Moscou, Claude Bruyot, France Inter.
Nouvelles arrestations au Sri Lanka. 18 personnes interpellées la nuit dernière. Les attentats du jour de Pâques ont fait près de 360 morts. Aujourd'hui, le vice-ministre de la Défense reconnaît des défaillances. Une note d'alerte des services de renseignement n'aurait pas été transmise au Premier ministre. Le nombre de victimes civiles diminue en Afghanistan, moins 25% en un an. Mais ce bilan des Nations Unies nous apprend aussi que pour la première fois, les forces américaines et afghanes ont fait plus de victimes que les islamistes. Sur place, Sonia Ghezali.
305 civils ont été tués par les forces étrangères et afghanes depuis le début de l'année. Les talibans et le groupe État islamique sont aux responsables de la mort de 227 civils. Des chiffres alarmants qui s'expliquent par l'intensification des raids aériens menés par les États-Unis et l'aviation afghane contre les positions des talibans et du groupe État islamique. Les victimes sont aussi nombreuses lors des missions de reconnaissance au sol, essentiellement effectuées par les forces afghanes, dont certaines unités ont été formées par la CIA et qui semblent agir en toute impunité selon l'ONU. La Commission indépendante des droits de l'homme afghane déplore le silence qui entoure ces bavures. Les proches des victimes se bousculent dans ces bureaux provinciaux pour réclamer justice. « Nous sommes impuissants », disent leurs responsables. « Jamais aucune enquête n'est diligentée ni par l'OTAN ni par les autorités afghanes après la mort de civils dans des opérations des forces militaires. Cette impunité a de lourdes conséquences selon plusieurs militants des droits de l'homme. Elle pousse de nombreux proches de victimes dans les rangs des insurgés. »
Il était le chef historique et fondateur du FIS algérien, le Front islamique du salut. Abassi Madani est mort au Qatar à 88 ans. En 1991, son mouvement allait remporter les élections législatives, mais l'armée avait interrompu l'élection. Il avait ensuite été emprisonné.
Le Conseil d'État valide l'arrêt des soins de Vincent Lambert.
Et pourtant, ce douloureux dossier n'est peut-être pas refermé. Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis un accident de voiture en 2008. En 2013, son épouse, une partie de sa famille et ses médecins ont lancé un protocole de fin de vie, mais ses parents et une partie de sa famille ont saisi la justice. Aujourd'hui, le Conseil d'État estime que les soins peuvent être arrêtés, mais ce n'est pas forcément fini, estime François Lambert, le neveu de Vincent qui refuse l'acharnement thérapeutique.
les traitements des enfants pourraient être arrêtés, mais c'est pas dit que ça se passe comme ça, et surtout, juridiquement, la situation peut changer. Les parents de Vincent ont saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour demander qu'elle rejuge l'affaire alors qu'elle l'a déjà jugée en 2015. La Cour européenne des droits de l'homme devrait lui dire qu'elle ne va pas la rejuger justement parce qu'elle l'a déjà jugée, mais des juges pourraient considérer qu'il faut quand même la rejuger, et ils pourraient demander à ce que la France maintienne en vie Vincent le temps que la Cour européenne des droits de l'homme se prononce à nouveau. Les parents de Vincent pourront ensuite saisir une autre instance internationale.
Comme quel type d'autres instances, par exemple?
Le comité des droits des personnes handicapées qui dépend de l'ONU. Alors voilà, ils peuvent essayer comme ça de gagner du temps. Mais voilà, juridiquement, a priori, il n'y a rien qui s'oppose à ce que les traitements de Vincent soient arrêtés. Le CHU de Reims devrait pouvoir arrêter les traitements de Vincent, mais peut-être qu'il ne le fera pas en disant qu'il préfère attendre la fin des recours, en sachant que ces recours peuvent se multiplier et durer des années.
Des propos recueillis par Daniel Messager. Les prix bas ne sont pas forcément bons pour tout le monde. Comment satisfaire les paysans, les intermédiaires, les distributeurs et les consommateurs? C'était le but de la loi Alimentation, entrée en vigueur l'année dernière. Mais il est difficile de satisfaire toute la chaîne. Alors ce matin, le gouvernement a présenté une nouvelle ordonnance contre les prix abusivement bas. Car globalement, Manuel Ruffez, la loi n'a pas beaucoup changé les choses.
Attention, la loi est encore trop récente, soulignent tout de suite les ministres concernés. Et pourtant, l'état d'esprit n'est déjà plus le même, affirme-t-il. Il y a même eu des améliorations dans certains secteurs, souligne Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie.
Sur le lait, vous pouvez démontrer que vous avez une augmentation du prix et que ce prix bénéficie aux agriculteurs. On le trouve aussi pour le secteur, la filière de la pomme de terre. Et arriver déjà en si peu de temps à faire bouger les lignes, c'est très positif. Maintenant, il faut regarder tout ce qu'il faut améliorer dans l'ensemble des filières, parce qu'il y a une attente très claire de la part des agriculteurs à voir concrètement dans leur portefeuille la traduction de ces négociations.
Car c'est bien là le problème, comme disent les agriculteurs, on n'a pas encore vu arriver l'argent dans les cours de ferme. Le compte n'y est pas, reconnaît le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume.
Aujourd'hui, les agriculteurs ne voient pas encore remis dans le lait les résultats. Donc c'est pour ça que ce n'est pas satisfaisant. Donc il faut aller plus loin, continuer à faire des contrôles, vérifier comment les choses se passent. L'objectif est que demain, les agriculteurs vivent mieux ou vivent tout simplement des revenus de leur travail, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui.
Mettre fin à la guerre des prix et à l'agressivité des négociations commerciales, Bercy l'affirme, nous ferons respecter l'ordre public économique.
La flèche Alaphilippe, Julien Alaphilippe, le cycliste français remporte sa deuxième flèche wallonne consécutive cet après-midi. Il s'impose en haut du mur de Huy avec des cotes à 25%. Alaphilippe qui avait déjà remporté Milan-San Remo cette année. Dick Rivers ne twistera plus, le rocker à la banane noire corbeau et à la voix rauque est mort ce matin à 74 ans. Un cancer l'a emporté le jour de son anniversaire. Avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, le leader des Chats Sauvages était le plus célèbre des rockers français des années 60. Fidèle au rock'n'roll, aux États-Unis, à son Perfecto et à ses Santiago, il était aussi attaché à un chanteur.
Elvis et encore Elvis et puis les autres. Mais je veux dire, le leader incontesté, c'était lui, que, tous des gens que j'ai connus, quoi. Mais pour nous, c'était naturel. C'est ça que je ne saurais pas faire comprendre aux gens. Moi, j'ai un vécu extraordinaire. J'ai connu des gens fantastiques, mais par hasard. Je suis fier de ça, mais j'ai pas de nostalgie. Ce que je fais aujourd'hui et demain est plus important que ce que j'ai fait. Mais je suis conscient que ce que j'ai fait est très important. Since my baby left me, I found a new place to dwell. Down at the end of the lonely street, to heartbreak hotel. I get it so, I get it so lonely.
Dick Rivers qui chante Elvis Presley. Vous avez reconnu la chanson, Pierre?
C'est un morceau de Presley, mais lequel
Heartbreak
exactement?
Hotel.
Ah bah bien sûr, Heartbreak Hotel. Il était incollable sur l'histoire du rock, Dick Rivers. C'était
mais oui,
formidable.
Il était animateur sur France Bleu. Et l'interview qu'on vient d'entendre était justement réalisée au micro de France Bleu Azur parce qu'il était né à Nice.
Bien sûr, il a chanté Twist à Saint-Tropez, n'est-ce pas? C'était en 1962. C'était le journal de Frédéric Mettezo.
La météo avec Gauthier, la marque française de mobilier contemporain. Et pour trouver le mobilier de vos rêves, rendez-vous en magasin et sur gauthier.fr.
La météo, c'est avec Élodie Calac de Météo France. Bonsoir, Élodie.
Bonsoir à tous.
Quatre départements du centre-est en vigilance orange.
orange.
La Haute-Loire, la Loire, le Rhône et l'Isère pour des vents violents. Les rafales peuvent atteindre les 110 km à l'heure en plaine, 130 sur le relief. Ça va se calmer seulement demain après-midi. Côté ciel, ce soir, encore de nombreuses averses sur les deux tiers nord du pays. Des orages parfois forts également sur le nord-est.
Et demain, ce sera encore perturbé.
Une nouvelle perturbation va gagner l'ouest dès ce soir. Demain, elle s'étendra des Pyrénées et du Massif central vers les frontières belges et luxembourgeoises. Elle gagnera ensuite la vallée du Rhône, le Grand Est, puis le flanc est en soirée, avec des pluies parfois orageuses, soutenues. Les Cévennes seront particulièrement exposées. La neige s'abaissera autour de 1000 mètres l'après-midi sur l'Auvergne. Ailleurs, ce sera plus variable avec des averses, parfois de l'orage, du grésil. Et puis le tout dans une ambiance plus fraîche, souvent 13 à 20 degrés.
Merci Elodie Calac.